Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez chaque jour sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Le Ridon, Bertie Bourdon, Luc Alazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Suite de notre série consacrée aux droits et libertés au temps du coronavirus. Après avoir parlé de la liberté de circulation, de la liberté d'information, place à la protection des données personnelles, très discutée ces dernières semaines avec ces applications de traçage destinées à nous aider à lutter contre la pandémie, comme Stop Covid, qui va être discuté à partir d'aujourd'hui au Parlement et qui divise jusqu'au sein même de la majorité. Pour nous éclairer, comme à chaque fois, nous allons prendre un peu quelques exemples à travers le monde et en particulier regarder ce qu'il se passe du côté de la Corée du Sud ou encore de Taïwan, de Séoul à Taipei. Être tracé, c'est la santé ? Point d'interrogation, c'est notre question ce matin dans Culture Monde.
Après les conseils reçus par les experts en maladies infectieuses, le gouvernement a pris une mesure forte. Nous élevons dès maintenant le niveau d'alerte au plus haut niveau possible.
Ce service me permet de visualiser quel patient est passé et quand, près du lieu où je me trouve, grâce à la géolocalisation. Normalement, la désinfection d'un lieu suspect est faite en moins de 3 jours. Donc sur les points verts, on peut y passer sans aucun danger. Pour les points rouges, il vaut mieux éviter. Ce sera sans doute pas encore désinfecté. Au début, on communiquait même l'adresse, l'âge ou le sexe des personnes concernées. Mais à partir d'un certain moment, on a enlevé tout ça. Pour éviter la propagation, il faut bien partager les informations. Dans le cas où je serai positif, je fournirai volontiers toutes mes informations personnelles.
Moon Jae-in, président de la Corée du Sud, est un jeune ingénieur qui a aidé à mettre en place un programme de surveillance numérique dans le pays pour lutter contre la pandémie. On va s'intéresser justement ce matin à la Corée du Sud, mais aussi à Taïwan, deux pays dont les bilans sanitaires auraient pu être catastrophiques compte tenu de leur proximité géographique avec la Chine d'où est parti le virus et qui pourtant l'ont très bien contenu, comme le montrent les chiffres. 269 décès pour 11 225 cas en Corée et seulement 7 morts pour 441 un cas à Taïwan, l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Il faut dire que contrairement aux autres pays qui ont opté pour le confinement, Taipei et Séoul n'ont jamais interdit de sortir de chez soi, préférant miser très tôt sur les tests massifs, sur les masques, mais aussi sur les outils numériques de surveillance et de traçage. Coordonnées GPS, achats bancaires, appels téléphoniques, tout est récupéré et analysé afin de ne manquer aucun individu qui pourrait être contaminé. Un véritable défi pour ces régimes démocratiques, soucieux des libertés et du respect de la vie privée. Alors comment s'y sont-ils pris? Quelle gestion de la collecte et de l'analyse des données personnelles? Quel encadrement législatif de l'usage des outils numériques? Quelle acceptation aussi? Puis peut-être aussi quelle résistance pour les citoyens? Et faut-il s'inspirer de ces exemples ou au contraire se méfier de fausses bonnes solutions qui porteraient en eux le risque d'un glissement vers des formes de régimes techno-autoritaires comme on voit du côté de la Chine? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin François Godemant. Bonjour François Godemant.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne et vous aviez signé en 2018 « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe ». Également avec nous par téléphone, Jean-Yves Collin. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au sein du think tank Asia Centre. Vous avez dirigé des sociétés de gestion d'actifs dans la région, raison pour laquelle vous connaissez particulièrement bien la Corée du Sud dont on va parler. D'abord, première question un peu générale. On va avoir le temps, évidemment, de développer les choses. Mais je rappelais les bilans sanitaires de la Corée du Sud et de Taïwan. 7 morts du côté de Taïwan, 269 du côté de la Corée du Sud. On peut parler d'excellent bilan, même si évidemment ça reste des pertes humaines et que c'est toujours trop, bien sûr. Mais quelle part François Godemant a joué le dispositif numérique, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ce dispositif numérique de suivi dans cette réussite, François Godemant?
Oui, d'abord juste pour signaler que j'ai publié avec des collègues en avril à l'Institut Montaigne une étude de 150 pages sur les 6 cas de l'Asie orientale qui s'appelle Covid-19, l'Asie orientale face à la pandémie.
Et que j'ai lu en partie, dont on va parler, François Godemont, évidemment.
Qui va aller plus loin, plutôt que le livre de 2018. En fait, le Taïwan n'est pas le cas le plus frappant d'utilisation de l'outil numérique. Sauf sur un point, mais est-ce qu'on peut appeler ça un outil numérique ? L'obligation pour les gens qui sont placés en confinement et en pratique en isolement d'avoir un téléphone mobile qui leur est d'ailleurs donné avec une application qu'ils doivent laisser ce téléphone ouvert et ceci permet de vérifier s'ils respectent ou non l'isolement. Des exemples anecdotiques montrent que si vous fermez votre téléphone pendant 15 ou 30 minutes, la police arrive à votre porte pour voir ce qui vous est arrivé, si vous êtes sorti ou non. Donc c'est un cas assez restreint, plutôt que du traçage, j'appellerais ça du pistage, c'est pas la même chose, il s'agit pas de récupérer les contacts que vous avez pu avoir, mais simplement de vérifier l'application des mesures de quarantaine.
Oui, de savoir où vous êtes à peu près à tout moment finalement, c'est ça l'enjeu.
À tout moment, mais c'est bien sûr pour la fraction de la population qui présente des symptômes et qui a été placée en isolement, ou pour des gens qui arrivent de l'étranger, et qui sont mis en quarantaine pendant une certaine durée, c'est le cas. Alors d'autres méthodes existent, par exemple à Hong Kong avec des bracelets électroniques pour les nouveaux arrivants dans la cité. Les vraies méthodes qu'a utilisé Taïwan, d'abord je crois qu'ils ont tout simplement pris conscience extrêmement vite, tôt, avant tous les autres, de la menace, et pour cause, beaucoup de Taïwanais se rendent à Wuhan, ils avaient des informations directes, ils parlent après tout la même langue, et par conséquent, ils ont commencé à stopper les vols, les arrivées à Taïwan, ou plus exactement à vérifier les passagers sur les vols, très tôt, pratiquement dès les premiers jours de janvier, et à interrompre les vols en provenance de Wuhan. C'est la première recette. La deuxième, c'est, on est encore dans les outils digitaux, mais c'est pas des outils de traçage, l'ubiquité des masques, l'acceptation sociale des masques, mais surtout un système d'approvisionnement et de localisation des stocks de Mars ou de distribution par la poste. Possibilité pour chaque Taïwanais de savoir quelle pharmacie stocke des masques au lieu de courir les pharmacies comme on a pu le voir ailleurs, si vous voulez, et qui a donc permis très vite de mettre en place une protection personnelle.
Ouais, et d'ailleurs du côté de la Corée du Sud, Jean-Yves Collin, s'agissant de la distribution des masques, là aussi on a mis en place des choses assez intéressantes, et notamment vous pouviez retirer vos masques dans des pharmacies, et on avait organisé les choses de telle sorte à ce que, en fonction de votre année de naissance, vous deviez vous présenter à un guichet de pharmacie tel ou tel jour. Là aussi on voit que ça a très bien fonctionné, parce qu'il y a évidemment l'outil numérique, mais il y a des choses plus pragmatiques, plus simples, plus de terrain, mais qui sont quand même très bien, qui ont été très bien pensées du côté de la Corée du Sud, Jean-Yves Collin.
Oui, tout à fait. En fait, la Corée du Sud a un slogan qui est celui des 3T pour définir de manière générale son dispositif. Le premier T, c'est le test, le deuxième, c'est le traçage, et le troisième, c'est le traitement. Alors, les tests, c'est un point très important, notamment au regard de ce qui s'est fait en Europe, peut-être hors Allemagne. Ces tests ont été très très abondants, très fréquents, puisqu'on dans la période qui va de la fin février. Je rappelle que le premier cas de coronavirus en Corée est intervenu le 19 janvier, mais que le dispositif lui-même ne s'est pleinement engagé qu'à partir du 20 février, c'est-à-dire au moment où on a découvert ce cluster à Daegu auprès d'un rassemblement d'une église évangélique, qui est d'ailleurs un peu particulière. Et donc pendant toute cette période, disons de la fin février à la fin avril, il y a eu 15 000 tests par jour. Les statistiques qui sont sorties ce matin en Corée donnaient encore par exemple 13 000 tests hier. Donc, et ces tests étaient effectués à partir de 5 types de kits faits par 5 sociétés. Il y avait à peu près 600 centres de tests et il y avait 50 driving. Donc quelque chose de très large. Et le tracing fait référence effectivement à un dispositif d'application numérique qui a pour intitulé Covid SMS, SMS voulant dire Smart Management System, qui lui-même a deux composantes, qui est une composante pour les personnes à risque et les personnes contaminées, ça c'est la première composante, et c'est une compétence en effet assez intrusive, puisque on doit renseigner un nombre impressionnant de renseignements sur ses caractéristiques personnelles, nom, adresse, numéro de téléphone, sexe, déplacement antérieur, et surtout on doit les faire deux fois par jour. Et puis il y a une deuxième composante qui est une composante qui est destinée à ce qu'on pourrait un peu abusivement appeler d'officiers traitants, c'est-à-dire de gens qui suivent ces applications et qui ont la capacité d'appeler le contaminé ou le personne à risque s'il y a des choses qui le choquent dans la remontée des informations ou s'il s'aperçoit que le contaminé, en quelque sorte, ou plutôt le personne qui est en quarantaine, ne respecte pas cette quarantaine. Alors après tout ce dispositif principal, il y a d'autres applications effectivement qui existent en Corée. Il y a une première application qui est plutôt de nature générale, qui est une application qui s'appelle CBS et qui permet de donner à la population des informations générales, par exemple quand il y a des typhons ou des risques de cataclysmes, mais qui là est utilisée pour donner des alertes à la population et éventuellement des alertes ciblées à telle ou telle zone. Et il y a une troisième série d'applications qui sont les applications de distribution de masques. Comme vous l'avez dit, les masques sont plutôt distribués en pharmacie. Il y a quand même eu des restrictions, je dirais presque un rationnement des masques au début, puisque on devait donner deux masques par personne, puis ça a été porté à trois masques. J'indique au passage que les masques ont toujours été payants en Corée pour une somme équivalente à peu près 1 euro, 1,10 € par masque. Et enfin, il y a des applications dites d'autodiagnostic qu'on remet systématiquement, par exemple, aux personnes qui entrent en Corée. Donc vous avez un ensemble de dispositifs et les Coréens surtout insistent sur le fait que l'application que j'appelle SMS est une application qui a une capacité de remontée d'informations extrêmement rapide.
Ouais.
C'est-à-dire que les premières tentatives qu'ils ont faites, c'était des remontées en un jour, et maintenant ils sont capables de faire remonter dans 10 minutes, un quart d'heure, les informations.
Oui, il y a une efficacité technique qui est assez remarquable. François Gaudement, il y a toute une série, on le voit, Jean-Yves Collin vient de nous le dire, toute une série d'outils numériques très différents. Qu'est-ce qui est prévu en Corée du Sud pour encadrer justement l'utilisation de ce type d'application? Comment on gère dans les textes la collecte, la gestion de toutes ces données, qui sont quand même des données tout à fait personnelles? Et j'ajoute, François Gaudement, que certaines, en tout cas, de ces applications sont obligatoires. Le contact tracking, c'est pas une option en Corée du Sud, c'est obligatoire. François Gaudement.
Oui, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, date de la crise du MERS, du virus venu du Proche-Orient. Et c'est ce qui avait permis de mettre en place, à ce moment-là, un système de traçage des contacts. Le système coréen va encore plus loin parce que il a la caractéristique, comme en Chine, d'utiliser à la fois Bluetooth et GPS, d'utiliser et de croiser les données, par exemple, sur les achats par des cartes de crédit, sur les déplacements en GPS. En moyenne, un individu, toutes les deux semaines, fournit 10 000 indications sur ses déplacements par le biais de son téléphone. Donc c'est une reconstitution à peu près intégrale. Elle a été critiquée et comme l'a indiqué Jean-Yves Collin d'ailleurs, bridée uniquement sur le point de la divulgation des identités ou de détails permettant en fait de reconstituer l'identité. C'est-à-dire si on vous dit il y a monsieur machin dans un immeuble qui vit à tel étage et qui par ailleurs travaille à l'entreprise X, il ne devient pas très difficile de deviner de qui il s'agit.
Et parce que quoi, au départ, c'était des informations qui étaient divulguées, et donc finalement, donc on peut parler de ratage, et on est revenu dessus. Enfin, comment ça s'est passé?
Trop de détails,
ouais.
Mais avec trop de détails divulgués. En principe, les individus sont enregistrés sous un alias. Il y a des garanties qui sont données par le service qui coordonne ce traçage sur la non-communication à des tiers. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu très peu de débats proprement juridiques là-dessus. Un facteur a beaucoup joué, la nécessité de dépister le principal cluster, le principal foyer de contamination, qui a été la fameuse secte d'une ville de province qui s'était rendue massivement à Wuhan, qui d'ailleurs ne le reconnaissait pas tout à fait, qui en fait cherchait à cacher la façon dont elle avait malgré elle dont elle était devenue un foyer de diffusion.
Ouais, vous parlez de la fameuse patiente 31 que tout le monde connaît en Corée du Sud. Elle est devenue malheureusement, tristement célèbre, cette patiente 31.
Elle a infecté jusqu'à 5000 personnes à elle seule, malgré elle. Mais évidemment, la question des contacts se posait. Le deuxième cas qui fait un peu problème en Corée du Sud, c'est que l'application de traçage qui reconstitue tous les déplacements et les contacts a permis d'identifier un nouveau foyer de contamination dans les toutes dernières semaines dans les bars et boîtes de nuit d'un quartier bien connu de Séoul qui se trouve être aussi un quartier gay. Et compte tenu du stigmate qui s'applique à la population gay en Corée du Sud, il n'est guère agréable pour les gens qui se sont rendus dans ces endroits d'être du même coup identifiés comme gays. Et ceci a posé des questions. Mais, grosso modo, les réticences sont assez faibles. Moi, je voudrais indiquer sur le fait que le seul pays qui est vraiment en marge de toutes ces applications digitales, ça reste le Japon. Où d'ailleurs, l'application de traçage reste, pour l'instant, en préparation. Elle n'est pas encore complètement lancée. Et où elle sera plutôt sur le modèle Apple Android, c'est-à-dire où les informations reste très longtemps sur le téléphone individuel.
On y reviendra tout à l'heure avec Félix Tréguer. Je vais passer la parole dans un instant à Jean-Yves Collin, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu avec vous, François Godman, si vous le permettez, pour aller un tout petit peu plus loin sur ce cas qui est très intéressant de la patiente 31 que vous évoquiez, qui a donc été contaminée en Chine, à Wuhan, qui, vous disiez, hein, a contaminé probablement plusieurs milliers de personnes et qui avait plusieurs fois refusé de se plier à un test de dépistage. Alors vous disiez malgré elle, soit, mais enfin elle a quand même nié avoir voyagé en Chine et elle a refusé plusieurs fois de faire le test de dépistage. On se demande comment un cas comme celui-ci est possible dans un pays où la riposte sanitaire a été si efficace et ce qui pourrait se passer pour cette femme. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'elle soit condamnée? Je crois qu'il y a une enquête criminelle qui est lancée.
Je ne pense pas, parce qu'il n'y avait pas de législation formellement en place.
D'accord.
Mais le problème se pose partout. Le problème de l'acceptation, y compris l'acceptation, par exemple, pour mettre en place une application sur votre téléphone, ou l'obligation de laisser en marche Bluetooth ou GPS. Vous avez beaucoup de gens qui n'aiment pas laisser en marche Bluetooth, en plus parce que ça consomme du courant, tout simplement. C'est une raison pour laquelle l'application n'est pas toujours téléchargée et utilisée dans des endroits comme Singapour. En Inde, il y a eu une obligation administrative créée, en particulier pour la région de New Delhi, obligeant les gens à télécharger une app de localisation et à la laisser ouverte sous peine de pénalité judiciaire. C'est très contesté, ça fait un débat. Donc le problème est universel. Si je faisais une gradation entre les pays asiatiques, si vous voulez, je dirais que le Japon est celui qui ressemble le plus à l'Europe, avec le plus de réticence à la mise en place de tous ces outils. Malheureusement, c'est aussi celui qui n'a pas complètement échappé au confinement. Ceci a entraîné cela. Et que les plus coulants, disons, les plus acceptants de toutes ces technologies intrusives auront été la Chine, bien sûr, dont on n'a pas parlé, et la Corée du Sud. Le cas de Singapour est un peu à part, c'est une application extrêmement intéressante.
On en parlera tout à l'heure avec Eugénie Mériot par téléphone et on reviendra sur cette acceptation de la population en Corée du Sud, essayer de comprendre d'où cela vient. Mais si je reviens avec vous, Jean-Yves Collin, un instant sur cette question de l'encadrement législatif de ces applications numériques diverses et variées. En théorie, en tout cas, Jean-Yves Collin, les milliards de données de citoyens qui ont été collectées, de citoyens qui n'ont pas été malades et donc qui normalement ne doivent pas être révélées, ces données-là, elles doivent être, en théorie, détruites. Quelles sont les garanties qui existent qu'elles seront bien détruites? Et est-ce qu'on risque pas d'avoir, à terme, au fond, des autorités qui seraient tentées de les conserver au titre du fait que, finalement, ce système s'est montré extrêmement efficace, donc il est peut-être intéressant, pour des raisons de santé publique, de garder ces éléments? Jean-Yves Collin.
D'abord, d'un point de vue un peu technique, je voudrais souligner qu'il y a deux points sur lesquels les autorités coréennes insistent peut-être un peu lourdement. C'est d'une part que les données qui remontent à travers l'application dont je parlais, elles ne font pas l'objet d'un partage généralisé, c'est-à-dire qu'elles sont limitées aux officiers traitants qui sont chargés de tel ou tel secteur, d'une part, et que d'autre part, les informations qui sont remontées doivent être détruites au bout de 15 jours. Ça, ce sont des aspects, je dirais, techniques, mais au point de vue général, tout le dispositif coréen est encadré par deux lois. L'une qui est une loi sur la prévention des maladies infectieuses qui a été notamment modifiée après le MERS en 2015 et d'ailleurs modifiée de nouveau en 2018. Ce point est important parce que, comme l'indiquait François Gonnement, en effet, la Corée a connu deux épidémies, le SRAS et le MERS en 2003 et 2015. Et les mêmes autorités coréennes indiquent qu'elles ont été à l'époque impuissantes devant ces maladies. Et donc c'est la raison pour laquelle, à partir de 2015, elles ont élaboré un système pour se préparer à un nouveau risque épidémique. Et puis d'autre part, il y a une loi sur la protection des informations relatives aux données personnelles, qui date à peu près de la période, disons, de démocratisation de la Corée, c'est-à-dire le milieu des années 90, 95, 96. Et il est intéressant de noter que cette loi sur les informations personnelles, que les juristes coréens, qui sont généralement assez soucieux des problèmes des droits de l'homme, notamment le président qui est un ancien avocat des droits de l'homme et du droit du travail, cette loi prévoit deux types de dérogations et qui sont deux dérogations que je qualifierais de parallèles. L'une qui est relative à la sécurité nationale. Alors la sécurité nationale en Corée du Sud, ça veut dire la menace de la Corée du Nord. Et d'autre part, celle sur la santé publique. Et dans ce cas-là, sur la menace de santé publique, cette loi prévoit des dérogations aux interdictions de collecte de données, aux interdictions de transmission, de distribution, et prévoit des blocages et des destructions de données. Cela renvoie, à mon avis, à une situation qui est sous-jacente en Corée et dont il faut quand même garder à l'esprit, c'est que la Corée est un État qui est toujours en situation de guerre. Aucun traité de paix n'a été signé avec la Corée du Nord. Il y a des tensions récurrentes. Dans le passé, il y a eu, dans le passé un peu lointain, mais il y a eu des attentats, il y a eu des incidents militaires dans un passé plus proche. Il me semble que cette situation très spécifique à la Corée maintient un état de veille, et sinon de la totalité de la population, mais en tout cas de l'ensemble de la sphère dirigeante et administrative, et une forme de culture du risque. Et ça permet, je pense aussi, à l'acceptation de ce dispositif. Et en contrepoint, il faut effectivement, comme je l'indiquais, rappeler et comme vous l'indiquez vous-même d'ailleurs, que la Corée est une démocratie depuis 1996, avec une alternance de présidents progressistes ou de présidents démocrates, et que les Coréens ont une certaine conscience, sensibilité de ce problème démocratique qu'ils estiment avoir une légitimité liée à la période coloniale japonaise, aux guerres de Corée, aux régimes dictatoriaux. Donc tous ces éléments jouent. À ça s'ajoute, pour la diffusion des applications, bien entendu, que la Corée, comme on le sait tous, est un pays très avancé dans l'économie digitale ou numérique, que la 5G y est très présente, qu'il y a des opérateurs comme Naver qui sont peu nombreux mais qui couvrent 90% de la population. Enfin, disons, tous ces éléments jouent pour le succès du dispositif, mais d'un succès qui est effectivement encadré.
Oui, parce qu'il faudrait pas penser, Jean-Yves Collin, que cette Corée du Sud n'est pas tout à fait une démocratie. Bien au contraire, vous le rappeliez, la Corée du Sud a connu, dans la période récente, une dictature militaire dont on est sorti progressivement à partir de la fin des années 80. Ça a mis un certain temps, ça s'est abouti dans les années 90. Et ce souvenir, évidemment, rend la démocratie encore plus précieuse. Et par conséquent, on prête une attention très particulière aux droits et aux libertés. François Gaudemont, est-ce que vous pouvez nous aider à mesurer d'abord l'ampleur de cette attention chez les responsables politiques coréens que la démocratie est bien préservée, et du coup nous dire ce que l'on a essayé de faire dès le départ pour peut-être rassurer les citoyens concernant ces outils de traçage qui portent en eux, pas toujours, mais qui portent en eux ce risque liberticide.
Je peux répondre que d'une manière assez générale, en disant que la démocratie politique, ça ne veut pas forcément dire qu'on a le même système culturel et le même système social ou sociologique. La Corée du Sud reste une société néo-confucéenne. Elle est capable d'un degré de discipline collective extrêmement élevé. Les préoccupations de santé sont effectivement anciennes. La mémoire des épidémies est extrêmement importante. On a quelque chose qui, il faut bien le dire, s'oppose à l'individualisme des sociétés et des démocraties occidentales. Je pense qu'il ne faut pas cacher qu'il y a une différence culturelle qui est là, visible en Corée, visible d'ailleurs même aussi à Taïwan, qui a pour le coup à la démocratie la plus totale, la plus achevée, la plus anarchique quelquefois dans son fonctionnement quotidien, la presse la plus libre, encore plus investigatrice, plus invasive, si j'ose dire, qu'en Corée. On est devant une différence qu'on ne peut pas résumer uniquement par un système politique.
Il y a une différence culturelle, vous avez raison, et peut-être qu'on peut creuser encore dans ce sillon-là, François Godemans, parce qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui disent qu'en réalité, les responsables politiques sud-coréens n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire pour persuader leurs concitoyens qu'il n'y avait pas de risque, parce que finalement, c'était l'avis des experts, des scientifiques, et qu'on a une foi très très importante en Corée du Sud, précisément dans la science, dans la technique, et que d'une certaine manière, puisque les scientifiques avaient dit que c'était ce qu'il fallait faire, eh bien, d'une certaine manière, les responsables politiques les ont écoutés, et tout naturellement, tout le monde s'est plié à cette surveillance généralisée. C'est une thèse qui vous semble correspondre avec ce que vous connaissez de la Corée du Sud, François Godemans ?
Oui, à condition de dire que dans ce cas-là, les responsables scientifiques sont de vrais responsables scientifiques, ce ne sont pas des responsables scientifiques cooptés dans des organisations bureaucratiques qui finalement deviennent des politiques. Vous voyez dans quelle direction je vais.
C'est-à-dire détaillé, François Godemans.
C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de position d'organe étatique, la comparaison je la fais avec la France, dans lesquelles les responsables ont des rapports très étroits avec l'État sur le plan financement, sur le plan même parfois de leur domination, si vous voulez. L'establishment scientifique existe, il est hautement respecté en Corée. Je crois qu'il n'y a d'ailleurs pas un ministre par ailleurs qui peut être ministre sans avoir un doctorat. C'est probablement le culte de l'éducation le plus important au monde. Mais il faut souligner que ce sont des scientifiques indépendants et que ça n'est pas, je dirais, contaminé par une culture d'établissement dépendant de l'État, ce qui peut être le cas, à mon avis, en France, dans certains cas où on s'aperçoit qu'il y a une interaction forte et que finalement des responsables d'institutions scientifiques peuvent suivre l'État. Je crois que le degré de consultation est depuis le début plus élevé.
Jean-Yves Collin, vous abondez, il y a je parlais de foi tout à l'heure, on considère beaucoup les scientifiques, les experts, les ingénieurs qui ont, il faut le souligner, peut-être le rappeler, qui ont largement participé au miracle du développement du pays. Il y a cette foi-là qui fait qu'en réalité, il n'y a pas eu tant de débats que ça et qui peut-être explique en partie cette acceptabilité des citoyens s'agissant de ces applications.
Oui, je partage tout à fait l'analyse de François Godemans et je dirais, j'ajouterais que du point de vue de la population coréenne, coréen standard, si vous me permettez cette expression, le progrès technologique est considéré comme un progrès social. En fait, la Corée étant passée d'un État très très pauvre il y a encore 40, 50 ans à un État riche, tout ce qui est venu par le progrès technologique a été considéré comme un plus par les Coréens. Et on ne voit pas ce qu'on voit d'une certaine manière en France quand on parle de l'application Stop Covid, tel ou tel, immédiatement poser des problèmes de principe sur les libertés, essayer d'opposer santé et liberté publique. Enfin, donc ces choses-là n'existent pas en Corée. Il n'y a effectivement pas eu beaucoup de polémiques sur le dispositif. Le dispositif a lui-même été mis en place dans une grande concertation avec les firmes et les scientifiques, puisque l'appli SMS que j'indiquais, en fait, n'est pas tombée du ciel. En quelque sorte, ils se sont servis d'un premier projet qui était pour les smart cities, pour les cités intelligentes, et ils l'ont en quelque sorte transformé pour ce dispositif, et ça a été fait quasiment en un mois, puisque à partir du moment où il y a eu des débuts de coronavirus en Corée, c'est-à-dire la mi-janvier, le dispositif était mis en place le 26 février. Et en liaison donc avec les grands opérateurs de télécom, les grands opérateurs d'applications, effectivement le système bancaire pour la remontée des informations sur les cartes de crédit. Au total, le dispositif agrège, je crois, 26 agences et ou sociétés. Et tout ceci s'est fait, je dirais, doucement, tranquillement. Donc, effectivement, il y a une acceptation assez naturelle de ce système, qui n'est pas tout à fait le cas, comme l'indiquait François, par exemple au Japon. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, où on est dans une situation plus européenne, même si les résultats sont plus asiatiques en termes de contaminés et de morts. Voilà.
François Godemant, il y a une question que je me suis posée en préparant cette émission et à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en lisant la documentation. C'est celle des coûts. Combien coûtent tous ces dispositifs? Alors, je vous demande pas un chiffrage, mais est-ce qu'on a une toute petite idée? Je me doute que vous allez me répondre que ça leur coûte moins cher que ce que va nous coûter à nous la crise économique et sociale qui va en découler. Mais est-ce qu'on a une toute petite idée du coût pour les citoyens de tout cela en Corée du Sud et à Taïwan, par exemple? François Godemant.
Moi, je pense qu'ils se sont surtout appuyés sur des structures, sur des dispositifs numériques, sur une avance digitale existante. Par exemple, le traçage en Corée du Sud des trajets des gens repose sur les technologies dites ville intelligente, smart city, qui permettaient par exemple de gérer les embouteillages, de gérer les incidents de circulation, et qui donc étaient toutes prêtes à être déployées, si vous voulez. C'est un petit peu comme si Waze, l'appli bien connu pour les embouteillages, était disponible de manière universelle, si vous voulez. On peut prendre cet exemple. Le croisement des données d'achat, des données de localisation, c'est quelque chose qui existait déjà, figurez-vous. C'est d'ailleurs quelque chose que les boîtes privées utilisent couramment. C'est quelque chose d'extraordinaire en France, qu'on s'indigne pour un traçage à des finalités de santé, quand la plupart des consommateurs ne se rendent pas compte que, sauf s'ils prennent des précautions extraordinaires sur leur téléphone, ils sont pistés tous les jours dans leur déplacement, dans leur proximité, en fonction des sites qu'ils ont visités. À Taïwan aussi existait un système horizontal avec un numéro d'identification reposant aussi sur le système postal. Donc je ne suis pas convaincu que les coûts soit gigantesque. Ce qui coûte très cher, ce qui est difficile, mais c'est aussi une question de mobilisation humaine, c'est qu'on sait qu'aucune de ces applications de traçage ne fonctionne bien s'il n'y a pas un suivi humain. C'est-à-dire s'il n'y a pas littéralement des détectives, des investigateurs derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des failles, par exemple, si vous habitez au troisième étage d'un immeuble et que vous êtes très près de quelqu'un qui est au quatrième, vous allez être identifié comme ayant eu un contact avec cette personne, alors qu'en réalité, vous êtes à un étage différent, vous n'avez peut-être jamais voisiné physiquement. C'est un exemple lambda, il y en a bien d'autres. Donc de ce côté-là, j'insisterai sur le fait que ça nécessite une capacité de mobilisation humaine.
Oui, c'est des moyens techniques, mais on l'oublie, c'est aussi des moyens humains. Et effectivement, si techniquement ça fonctionne très bien, faut pas oublier que derrière, il y a des brigades bel et bien humaines qui sont en charge de gérer la suite, le suivi, qui font les enquêtes effectivement de contact. Dans les deux heures, vous avez le ministère de la Santé qui vous appelle et qui va faire son enquête pour voir qui vous avez croisé, etc., etc. On est avec vous, François Godemant, et vous, Jean-Yves Collin, dans cette série consacrée aux droits et libertés au temps du corona, de Séoul à Taipei, être tracé, c'est la santé, c'est la question qu'on se pose. On va prendre la direction tout de suite d'un autre modèle du côté de Singapour.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Mes chers compatriotes singapouriens, bonsoir. Il y a 5 semaines, je me suis exprimé sur la situation qui est la nôtre face au Covid-19. Les choses ont beaucoup évolué depuis. Sur le front médical, de nouveaux cas continuent d'être détectés à Singapour. Soit ils viennent de l'étranger, soit leur contamination est directement liée à des cas importés. Nous avons été, à chaque fois, capables de les isoler, de retracer tous leurs contacts et de placer en quarantaine ceux avec qui ils avaient été en contact étroit. Ainsi, le nombre de cas a été contenu. Mais nous n'avons pas pour autant éradiqué le virus.
Voilà, on entendait à l'instant un extrait du discours du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. C'était le 12 mars dernier. Adresse donc à ses concitoyens. Soit nous avons fait nous avons un bon bilan plutôt, puisqu'il y a assez peu de cas dans la cité-État, mais il reste encore évidemment des raisons de lutter. On va s'intéresser à la manière dont Singapour justement a mis en place un outil de traçage qui s'appelle Trace Together. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelle gestion des données personnelles? Comment la population l'a accepté? Pour quelle efficacité? On va essayer de comparer tout ça. On retrouve depuis Singapour Eugénie Mériot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au Centre d'études du droit asiatique à l'Université nationale de Singapour, enseignante à Sciences Po, et vous aviez signé l'année dernière « La dictature, une antithèse de la démocratie ?» C'était au Cavalier Bleu. Visiblement, il semble, c'est en tout cas ce que disent un certain nombre d'observateurs, que le système de contact tracing, comme on dit en anglais du côté de Singapour, « Trace Together », serait peut-être moins intrusif que ce qu'on a décrit, sachant que ce qu'on a décrit déjà concernant la Corée du Sud et Taïwan, sont extrêmement encadrés. Comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu? Et en quoi serait-il moins intrusif, Eugénie Mériot?
Merci beaucoup. Oui, donc Trace Together, c'est l'application mobile qui est en quelque sorte le modèle de Stop Covid de l'application proposée en France. Et donc, il fonctionne par Bluetooth, c'est-à-dire qu'il fonctionne jusqu'à présent sur le mode du consentement. Donc, le téléchargement de l'application n'est pas obligatoire, du moins pas pour l'instant. Les données sont stockées localement sur le téléphone. Donc, c'est à partir du moment où une personne est diagnostiquée positive qu'elle va donner son téléphone aux autorités sanitaires qui vont ensuite pouvoir contacter les personnes qui ont été en contact avec la personne contaminée. Donc, ça, c'est vraiment sur la base du volontariat. Et puis, surtout, les données sont anonymes et les personnes sont uniquement contactées si elles ont été en contact avec cette personne. Donc, juste le numéro de téléphone, en réalité, qui est stocké.
Alors,
localement.
Alors, base du volontariat, Eugénie Mériot, ça veut dire quoi concrètement? Qui est-ce qui l'a installé? Il y a à peu près 5 millions d'habitants. Combien l'ont installé?
Environ 1 million, donc très peu de personnes, surtout que ça ne prend pas en compte... Environ 1 million de téléchargements, mais il y en a aussi énormément qui ont téléchargé l'application sans l'utiliser, c'est-à-dire qu'ils ne l'ouvrent pas. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit en permanence ouverte, ce qui n'est pas le cas. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui l'ont effacée, tout simplement. Donc, c'est une application, pour l'instant, qui n'est pas très efficace. Et surtout, si on fait un rapport entre coût-bénéfice, le coût en termes de liberté est quand même relativement important pour un bénéfice finalement minime.
Oui, en même temps, vous dites, Eugénie Mériot, qu'en réalité, c'est un système qui n'est pas très intrusif. Alors, comment comprendre précisément qu'il soit si mal accepté du côté de Singapour, alors que ça l'est plutôt très bien du côté de la Corée du Sud, même si, on l'a dit, c'est obligatoire, mais ça reste bien accepté.
Oui, c'est un des grands paradoxes. Ouais. Singapour, c'est un pays autoritaire, donc qui n'a eu qu'un seul parti au pouvoir, le People's Action Party, depuis l'indépendance en 1965, même s'il y a des élections qui sont dans certaines circonscriptions multipartites. Mais au-delà du contrat social qu'on pourrait appeler autoritaire, donc qui favorise la sécurité par rapport à la liberté, les Singapouriens ne sont pas du tout favorables à la mise en place d'une application qui soit obligatoire. Donc il y a des sondages qui sortent régulièrement et plus de la moitié des Singapouriens sont contre que ce soit l'utilisation des caméras de vidéosurveillance ou la géolocalisation. Donc là, oui, donc, en fait,
il y a une défiance a priori, et peut-être que cela s'explique aussi par le fait que Singapour n'est pas tout à fait une démocratie. On entendait par exemple son premier ministre, ça fait 15 ans qu'il est en place. Si on regarde un peu le total depuis 1959, il y a eu 3 premiers ministres. Donc on comprend que a priori, on n'est pas totale confiance. C'est ça l'idée, Jeannie Mériaux.
Alors, il y a une grande confiance dans le gouvernement, mais quand je vous parlais de paradoxe, c'était justement en comparaison à Taïwan et à la Corée du Sud, qui, eux, ont utilisé massivement la géolocalisation. Or, ce n'est pas le cas à Singapour, même pour la quarantaine à Singapour, les téléphones ne sont pas, les données GPS ne sont pas collectées. C'est vous recevez un SMS, vous devez cliquer sur un lien pour ensuite envoyer votre localisation aux autorités. Mais vous n'êtes pas traqué en permanence.
D'accord.
En revanche, il y a un second outil technologique qui est mis en œuvre, qui est là beaucoup plus intrusif. C'est Safe Entry, qui vient d'être mis en place récemment, qui n'est pas vraiment une application, mais qui est en fait un formulaire en ligne que vous devez remplir à chaque fois que vous entrez et que vous sortez d'un bâtiment, quel qu'il soit, que ce soit un bâtiment public, que ce soit votre lieu de travail ou que ce soit les magasins, par exemple. Et là, vous devez rentrer toutes vos données personnelles qui sont stockées sur le serveur du gouvernement. Donc là, c'est beaucoup plus intrusif et surtout, c'est obligatoire puisque dès que vous entrez vous ne pouvez pas entrer dans les bâtiments si vous n'avez pas rempli ce formulaire en ligne.
Eugénie Mériaux, il y a peut-être un point sur lequel il faut qu'on s'attarde un tout petit peu parce qu'on peut pas parler de Singapour et de la crise du Covid sans évoquer le cas des travailleurs migrants qui représentent à peu près 200 000 personnes à Singapour et qui ont été particulièrement concernés par une deuxième vague du virus. Vous nous dites un peu en quelques mots, Eugénie Mériaux, d'abord l'ampleur de ce drame sanitaire qui s'est joué en particulier dans ces quartiers de travailleurs migrants et comment expliquer qu'à Singapour, au fond, on n'ait pas pris les dispositions pour que cette catastrophe sanitaire n'éclate pas, quoi.
Là, on touche vraiment au message fondamental, c'est que la solution technologique, c'est un échec ça ne remplace pas une politique sanitaire et sociale. Et on l'a bien vu avec Singapour, qui est une société qui est très hiérarchisée en fonction des races. Donc, vous avez les travailleurs migrants qui font environ 40% de la population, et puis les Singapouriens qui, eux, ont le droit de vote. Donc, Singapour, le gouvernement a privilégié les Singapouriens au détriment des populations étrangères qui vivent dans des conditions sanitaires absolument déplorables. Ils sont 10 à 15 personnes parquées dans des dortoirs. Et aujourd'hui, tous les cas que nous avons à Singapour sont des cas issus de ces dortoirs. Et alors, le pire, c'est que le gouvernement, lorsqu'il annonce le décompte de cas de façon quotidienne, il va faire une séparation très stricte entre les cas qui sont survenus dans la communauté, c'est-à-dire chez les Singapouriens, et les cas étrangers, qui sont en réalité les personnes, mais les dortoirs sont dans Singapour, donc ils sont vraiment dans la communauté en réalité.
Et est-ce qu'on peut attendre des changements, Jeannie Mériaux, parce que la ministre du Travail singapourienne a dit qu'elle s'engagerait personnellement pour améliorer justement la situation de ces travailleurs migrants, on peut y croire, ou ce n'est que de la communication politique ?
Écoutez, pour l'instant, les éditoriaux qu'on voit dans les grands journaux pro-gouvernement se font plutôt le relais d'autres types de solutions, du type australien, si je veux dire, c'est-à-dire nous allons maintenant installer les dortoirs au large sur des bateaux ou sur des espèces de campements flottants. Donc, à mon avis, ce serait vraiment trop espéré que de penser qu'on va vraiment avoir un changement à ce niveau-là.
Je vais peut-être faire réagir nos invités. Alors, seulement Jean-Yves Collin, puisque François Godemont devait partir, et je le remercie d'ailleurs vivement d'avoir accepté notre invitation et nous avoir éclairé ce matin. Jean-Yves Collin, en revanche, vous êtes resté et je vous en remercie. Une réaction peut-être sur le cas singapourien ?
Oui, d'une certaine manière, j'ai deux réactions. L'une, effectivement, c'est le cas des travailleurs migrants, puisque l'image que projette Singapour est celle d'une société hautement technologique, avancé, relativement lisse. Et cette affaire du coronavirus à Singapour a montré, si je veux dire, un peu l'envers du décor de Singapour, qui était peu connu de la population étrangère quand elle y passe un jour, deux jours, trois jours, et qu'elle y fait du shopping dans les principaux magasins de Singapour. Donc ça, je trouve que la crise à Singapour, comme dans d'autres pays d'ailleurs, comme on parlait tout à l'heure de la Corée, le dérapage si j'ose dire, du système dans le cas des clubs gays d'Itaewon, a montré que il y avait en Corée du Sud une réticence forte à l'égard de la population homosexuelle et lesbienne. Donc la crise est parfois un révélateur. Et d'autre part, ma deuxième réaction, c'est quand même ce que votre correspondante singapourienne a indiqué, c'est-à-dire que Singapour est une sorte de pays de despotisme éclairé, si vous me permettez cette expression, de démocratie un peu despotique, alors que la Corée est une véritable démocratie, et dans le cas de la véritable démocratie, le dispositif est accepté largement, et dans le cas du gouvernement autoritaire de Singapour, il l'est beaucoup moins facilement.
Ouais.
Donc je pense que ça donne à réfléchir sur les mérites de la démocratie et de l'autoritarisme de façon générale.
C'était exactement l'objectif de cette mise en regard. Un grand merci à vous, Eugénie Mériot, d'avoir été avec nous en direct par téléphone depuis Singapour. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre d'études du droit asiatique à l'Université nationale de Singapour et que vous aviez signé l'année dernière « La dictature, une antithèse de la démocratie ?» Point d'interrogation, c'était chez Cavalier Bleu. Grand merci à vous. On parlait des limites de ce solutionnisme technologique. On va regarder justement qui il y a derrière ce solutionnisme technologique. Et il y a notamment deux géants, Google et Apple, qui veillent sur nous, puisqu'au début de la crise, Apple et Google se sont associés pour proposer aux États des outils de développement permettant de mettre en place ce type d'application de traçage destinée à lutter contre la pandémie. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette soudaine philanthropie? Quel intérêt pour ces entreprises? Et d'ailleurs, comment fonctionnent ces outils? Félix Tréguer, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et membre fondateur de la Quadrature du Net. Vous avez signé, vous, l'année dernière, L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet. On aura peut-être l'occasion d'en parler, c'était chez Fayard. Mais d'abord, expliquez-nous, Félix Tréguer, l'intérêt pour Apple et Google de proposer des outils de développement pour créer des applications de contact tracing. C'est juste de la philanthropie?
Non, ça s'inscrit dans une stratégie plus large et bien comprise qui correspond à des intérêts commerciaux. Et la nécessité aussi pour ces entreprises de se poser comme des partenaires naturels des pouvoirs publics dans la gestion de cette crise. Et au-delà des applications de backtracking, on a vu ces collaborations se nouer au tout début de la crise épidémique pour lutter contre les fausses nouvelles s'agissant du virus sur les réseaux sociaux. Il y a eu des mesures agrégées aussi, diffusées notamment par Google pour mesurer les effets des mesures de distanciation sociale. Et donc voilà, ça s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. On va aussi parler de la place de ces de grands acteurs du numérique dans les politiques de santé et dans les systèmes de santé à l'heure où du tout numérique dans les politiques sanitaires. Mais donc, voilà, c'est aussi une manière pour ces entreprises, quelque part, de tenter de clore une période d'hostilité assez grande des pouvoirs publics à leur égard, notamment aux États-Unis, où il y avait tout un débat sur les abus de position dominante de ces grands groupes, la nécessité de lutter contre leur position dominante dans leur marché respectif, dans l'économie numérique. Ces choses-là sont toujours plus ou moins en cours, mais il y avait une nécessité pour ces entreprises de redorer leur blason, et elles l'ont fait à la fois donc à travers en se mettant à disposition, et ça participe d'une stratégie d'une revalorisation symbolique, mais aussi d'un positionnement commercial sur différents marchés.
Félix Tréguer, j'ai lu que cette solution proposée par Apple et Google, en tout cas, on nous parle d'une solution décentralisée. Je comprends pas ce que ça veut dire décentralisée, en particulier s'agissant de la question de la protection des données personnelles. Félix Tréguer.
Alors ça correspond en effet dans ce débat qui s'est noué à partir du mois de mars sur les applications de contact tracing qui seraient installées sur les téléphones et fonctionneraient donc avec le système radio Bluetooth pour repérer des téléphones à proximité. Il y a eu tout un débat de la part de différentes initiatives, de développeurs, soit universitaires, soit des start-up et des entreprises qui collaboraient pour développer des protocoles en la matière. En France, c'est l'INRIA, donc l'Institut de recherche en informatique appliquée publique, qui s'y est collé en lien avec, là encore, des différents partenaires privés. Mais donc pour développer des protocoles et des architectures permettant de faire fonctionner ce gigantesque système de contact tracing à l'échelle de population entière. Et donc il y a eu en effet un gros débat sur le degré de centralisation ou de décentralisation de ces infrastructures. Et en effet, donc c'est en gros l'idée, c'était il y a un serveur central qui est nécessaire pour permettre de collecter une partie des données et alerter les personnes qui auraient été repérées à proximité d'une personne qui s'est avérée positive au Covid-19. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir le champ, le périmètre des données qui seraient centralisées et communiquées à serveur, et quelles seraient les données qui resteraient sur les terminaux des utilisateurs. Et donc, en effet, Google et Apple sont restés sur une architecture plus décentralisée, qui correspond pas notamment aux choix architecturaux réalisés en France par les équipes qui travaillent sur le sujet.
Et justement, raison pour laquelle, j'imagine, du coup, le gouvernement français a décidé en Europe, globalement, les États, on va parler de l'Allemagne, mais globalement, les États ont majoritairement retenu l'outil d'Apple et Google, ce que n'a pas fait le gouvernement français. On va parler évidemment de Stop Covid, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement français a eu raison, Félix Tréguier, de ne pas s'appuyer sur cette solution technique proposée par Apple et Google ?
Moi, je crois que c'est une mauvaise solution et qu'en fait, ces applications de backtracking sont une espèce d'écran de fumée qui masque d'autres atteintes très larges aux libertés publiques en cette crise sanitaire, que leur efficacité est extrêmement douteuse. Et j'y vois, là encore, une forme de solutionnisme technologique qui empêche de vraiment débattre et de parler des vrais enjeux. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a un enjeu... les efforts et les initiatives d'Apple et de Google en la matière... Vraiment, ça s'inscrivait au niveau des systèmes d'exploitation des téléphones portables. L'enjeu, c'était de faire en sorte que les applications développées à droite à gauche puissent fonctionner de la manière la plus efficace possible et de manière interopérable à la fois sur les téléphones Android et sur les téléphones Apple. Et donc, quelque part, ces collaborations étaient attendues et naturelles. Ce qui est sûr, c'est que le choix technique d'architecture décentralisée réalisé par Google et Apple à entraver les efforts et les choix que voulait promouvoir le gouvernement français et les équipes qui travaillaient sur le sujet. Après, il faut noter des contradictions très fortes dans la communication du gouvernement où on voit des critiques adressées notamment à Apple et Google et tout l'enjeu de la souveraineté technologique aussi qui est mise en avant dans les discours des ministres qui communiquent sur cet enjeu. Et donc il y a un vrai enjeu de souveraineté technologique, certes, et en même temps, lorsqu'on regarde le code de l'application Stop Covid, une partie a été publiée ces dernières heures en ligne, on est obligé de constater qu'il y a un petit bout de code qui appartient à Google qui tourne sur l'application, notamment pour un système, vous savez, des CAPTCHA qui servent à authentifier le fait qu'on est bien un humain derrière son téléphone et non un algorithme. Et donc, il y a une composante CAPTCHA qui est embarquée dans l'application Stop Covid et qui fonctionne à partir de la solution de Google et donc qui envoie a priori des informations vers les serveurs de Google.
Donc c'est amusant. Ça veut dire que malgré les efforts qui ont été déployés pour justement être indépendant techniquement, technologiquement de ces géants du numérique, en réalité, à la fin des fins, on dépend quand même un peu d'eux, quoi.
Exactement. Ouais. C'est pas la moindre des contradictions dans cette histoire.
Alors que la CNIL nous a dit hier, dans son deuxième avis, que Stop Covid était globalement assez positif.
Voilà, elle a rendu en effet un avis globalement positif. Alors, il faut se rappeler que la CNIL ne fait qu'interpréter le droit. Elle a une lecture très juridique de la chose.
Oui, et qu'elle n'a peut-être pas des informaticiens dans ses rangs. Il y a un pays sur lequel je voulais revenir un tout petit peu, Félix Tréguier, c'est l'Allemagne. Parce que là, les autorités avaient dans un premier temps, en tout cas, opté pour une option centralisée, opposée à décentralisée d'Apple et Google, c'est-à-dire un système propre. Et puis finalement, Berlin a changé d'avis et a opté pour la solution préconisée par Apple et Google. Que vous inspire cette volte-face et qu'est-ce qu'elle nous dit peut-être sur les rapports de force entre ces grandes entreprises et les États ?
Oui, ça a été le cas aussi en Espagne et en fait ça montre à quel point il y a une nécessité pour les États, lorsqu'ils interviennent dans le champ du numérique et développent des politiques publiques en la matière, de travailler main dans la main avec les grandes entreprises du numérique et de s'appuyer de toute façon sur les architectures techniques qu'elles diffusent très largement en les finançant à partir de la collecte généralisée de nos données personnelles pour faire de la publicité ciblée. Je pense que c'est important de le rappeler. Et ces collaborations, on les voit se nouer, donc là, dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, j'ai évoqué différents exemples au-delà même du backtracking. C'est vrai aussi dans les politiques de censure d'Internet. La loi Avia a été adoptée la semaine dernière par l'Assemblée, donc qui vise à lutter contre les discours de haine et qui, là encore, s'appuie très largement sur ces acteurs privés pour mettre en place les politiques de censure décidées par les gouvernements. Et donc, ces collaborations se multiplient. Et moi, je crois qu'on est en train d'assister, en dépit des rapports de force, en dépit des oppositions et des discours parfois critiques qui mettent en scène une opposition entre les États et ces acteurs, on assiste en fait à une forme d'incorporation, de fusion, où ces acteurs, ces grands acteurs américains du numérique sont de plus en plus mêlés aux politiques publiques, y compris en Europe.
Et est-ce que ça accroît le risque de dérive technototalitaire ? Je reprends une formule que vous avez utilisée dans une récente interview dans Le Temps, je vais vous citer. La tentation de suivre la voie technosécuritaire de la Chine est forte. Les élites politiques affirment que ce n'est pas dans la culture européenne de mettre en place une surveillance de masse. En dépit de ce discours, dites-vous, on remarque le développement de logiques proches, même si cela n'est pas toujours de la même ampleur. Cette tendance révèle peut-être à quel point une forme d'inertie des idéologies s'exerce dans ce domaine. Une fois que les outils numériques sont à disposition, les autorités s'en saisissent et participent, ce faisant, d'une dérive techno-totalitaire. Il y a, vous pensez, Félix Tréguer, en Europe, ce risque de dérive techno-totalitaire ?
Ben, c'est dans ce progrès de l'informatisation qui banalise des formes de surveillance, qui les fait proliférer dans différents champs sociaux. Et on le voit très bien à l'aune de cette crise, à la fois à travers l'utilisation des drones dans l'espace public, la vidéosurveillance automatisée pour détecter de manière automatique à partir des caméras de vidéosurveillance les entorses aux mesures de distanciation sociale, les caméras thermiques qui sont déployées, les fichiers médicaux qui sont mis en place par le ministère de la Santé pour lutter contre, pour repérer les personnes malades et à risque, la surveillance sur le lieu de travail ou via les outils déployés dans le cadre des mesures de télétravail. Toutes ces solutions technologiques font proliférer la société de surveillance et installent en fait l'infrastructure technique de formes de surveillance qui renvoie à des régimes totalitaires. Et en dépit en effet des discours de distinction brandis par les élites, je pense notamment à Christophe Castaner qui expliquait au mois de mars que des applications de traçage n'étaient pas dans la culture française, un discours qu'on a aussi entendu dans la bouche du commissaire européen Thierry Breton. En fait, les stratégies qui ont été déployées ressemblent vraiment à s'y tromper avec celles qu'on observait dès le mois de février en Chine et qu'on regardait à l'époque avec un peu de circonspection d'anxiété en fait. En voyant, moi je me rappelle de voir les premières images où des drones, où des policiers s'adressaient à des passants au travers des drones pour leur intimer de rentrer chez eux. Il y avait une forme de déshumanisation très forte dans ces déploiements technologiques et on se disait ça n'arrivera pas ici, ça semblait encore relever de la science-fiction et c'est bien ce qu'on a vu survenir à peine 2 mois plus tard. Donc je crois qu'il faut se garder de cette idée de la Chine comme un repoussoir, se rendre compte à quel point nos sociétés dites démocratiques suivent une pente très similaire et en effet je pense que le ressort fondamental de ces tendances tient à cette fascination pour la technologie et la manière dont elle accentue les rapports de pouvoir.
Merci beaucoup Félix Tréguer. Je rappelle que vous avez signé l'année dernière L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e siècle, 21e siècle, c'était chez Fayard. I'm a ghost, living in a ghost town. You can look for me. Living in the Ghost Town, un titre des Stones qui a été sorti en plein confinement, figurez-vous, et un excellent titre. Un grand merci encore une fois à Jean-Yves Collin et François Gaudemont qui nous ont accompagnés ce matin. On poursuivra notre série consacrée aux droits et libertés au temps du corona demain à 11h, mais pour l'heure, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.